Schwarz, 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 tu me copies? Schwarz, tu me copies?
Ouais, tout est sous contrôle.
La barge russe est à 14h.
Ok, Johnny. Du vendredi? Ouais.
Ouais, et toi?
Le mercredi soir, 9:30. The Russian Fortune.
Who's here to serve you and to complete your desire?
Roger.
Barge russe, 519, le bouquin et l'arc-en-ciel.
Mais qui est, à mon avis, qui tient plus de la poésie que de d'un récit onirique, hein?
Oui.
Alors voilà, je reviens un petit peu sur ce que j'ai déjà dit, c'est-à-dire que comme j'imposais une discipline pour sa santé et sa protection à ma lapine, je venais chaque jour nettoyer sa cage, lui préparer ses aliments, etc. Et j'ai fait ça pendant 10 ans.
Ah ouais?
Tous les jours, pendant 10 ans.
Oh, dis donc.
Et alors, ce jour-là, je viens comme à la coutume vers 5 heures, et la maîtresse de maison a voulu se débarrasser d'un élément, et faites très attention là, parce que c'est très important, d'un élément de bibliothèque murale.
Oui.
Vous savez, cet élément de bibliothèque, je ne sais pas si on le fait encore, mais juste allô?
Oui, allô?
Oui, il y a eu une petite...
Oui, il y a une coupure, oui.
Qui est juste au-dessus du lit.
Ouais, un meuble. D'accord.
De lire.
Ouais.
Au lit, et de remettre le livre à sa place avant d'éteindre la lumière. Donc, la maîtresse de maison avait sorti cet élément qui mesure à peu près 3 mètres.
Ah oui.
Un ou deux ou trois casiers. Et donc il fait environ 3 mètres, et puis les casiers font 30 cm de haut, quoi.
D'accord.
Voilà.
Ouais, je vois, j'imagine bien.
Et elle avait déposé ses vêtements contre la haie à l'entrée de la maison.
Mmh.
Bon. Alors, je suis en train de préparer la cage, de la nettoyer, j'ai acheté les légumes, etc., etc. Bon. Et puis, le ciel est un petit peu bleu, mais il y a des traînées de nuages, et puis on sent bien que la pluie arrive.
Mmh.
La lapine qui gambadait dans la petite pelouse juste à l'entrée après la grille.
Ouais.
Grimpe sur la bibliothèque, l'élément de bibliothèque, et se met dans une case.
Mmh.
Bon. Jusque-là, rien d'anormal.
D'accord.
Alors je continue mon travail, et puis je regarde le ciel, et on voit bien que ça se noircit de plus en plus et que la pluie va tomber. Le soleil a pratiquement disparu. Et je regarde où était la lapine. Et qu'est-ce que je vois? Elle est absolument enveloppée par l'arc-en-ciel. C'est-à-dire, j'avais une lapine arc-en-ciel.
Ouais.
La tête, le ras, les pattes. Elle était de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel.
Mais comment... elle avait un reflet sur elle, parce que comment est-ce que...
C'est-à-dire que l'arc-en-ciel, qui est le reflet du soleil dans les gouttelettes de pluie, hein, et qui diffracte, enfin, la lumière diffracte,
oui,
est venue sur elle, et puis l'avait habillée en quelque sorte.
D'accord.
Ciel.
Ok.
Bon, à deux choses exactement. À cette phrase qu'on trouve dans le livre biblique, et je laisserai au nu mon arc.
Oui.
Et je mettrai dans la nue mon arc-en-ciel.
Ah oui, d'accord. Ah bien, oui.
Et cela m'a rappelé, alors là je vais peut-être dévier un petit peu, mais ça m'a rappelé une apparition venue absolument étonnante. C'était le jour de la mi-carême en 1982, au moment de la fin du défilé, ce qu'on appelle la dislocation.
Oui.
Je me trouvais place du commerce et je me retourne et au-dessus. À peu près à cette hauteur-là,
oui.
À cet endroit-là, et à une hauteur de 4 à 600 mètres, il y avait deux objets noirs lenticulaires. Je l'ai raconté d'ailleurs dans une de vos émissions.
Oui.
Deux objets noirs lenticulaires qui volaient côte à côte. Et à un moment donné, un des objets s'est mis sous l'autre, enfin l'objet de... un des objets est passé sous le premier.
Oui.
Et toute la ceinture de cet objet lenticulaire s'est illuminée aux couleurs de l'arc-en-ciel.
Voilà. Ok. Donc ça vous est.
Donc c'était la deuxième fois où j'assistais à un événement un peu extraordinaire.
Oui, c'est ça.
Avoir donné une fin à cette histoire, se dirige vers le canal Saint-Félix.
Oui.
Et, une amie à moi qui n'avait rien vu, à qui j'avais seulement raconté l'histoire, m'a dit qu'ils sont allés au-dessus de la maison des compagnons du devoir, des maîtres d'œuvre. Voilà.
Ah oui, d'accord.
Il y a un fil conducteur.
Oui, oui, oui. Mais il y a l'arc-en-ciel sur la lapine, ça vous a donc rappelé les objets volants.
D'une part, et puis pour en revenir à notre émission, cette émission, c'est la façon dont peut-être l'invisible se manifeste.
Oui.
C'est-à-dire que l'arc-en-ciel rappelle la Bible, l'arc-en-ciel...
Oui, ça rappelle la Bible, pas pour tout le monde, je pense.
Non, mais je veux dire que c'est quelque chose qui vous...
Oui, qui fait allusion à beaucoup de choses chez beaucoup de personnes, mais quelque chose qui est sain, disons, oui. Je comprends.
Et alors, bon, on va terminer en beauté, si j'ose dire.
Oui.
Parce que... cet élément de bibliothèque où s'était installé la lapine, l'arc-en-ciel, n'avait plus de livres, naturellement.
Oui.
Bon, puisqu'il était au rebut et qu'on attendait le ramassage des encombrants.
Des ordures, oui. D'accord.
Mais c'est là où je vais en terminer. Je vais terminer. C'est que il restait quand même un livre. Vous savez lequel ?
Arc-en-ciel ?
Non. Que dans le français du 15e siècle, le lapin est appelé bouquin.
Ah ouais ? Et ce livre restait dans le meuble ?
Non, c'est le lapin qui était le bouquin.
Ah oui ! Ah ben oui, bien vu. Ah ouais, génial ! Mais comment vous le savez ça, qu'au 15e on l'appelait un lapin un bouquin ?
En lisant mon dictionnaire, je suis tombé sur le mot bouquin. Et puis, on insiste bien pour dire que c'est l'appellation du lapin.
Ah ouais. Ah ouais, c'est fort, ça. Ah ouais.
ça donne une conclusion à notre
idée. Ouais.
Mais ça, ce que je veux dire, c'est que arc-en-ciel, bouquin, ça fait quand même un...
Oui, il y a un signe, il y a quelque chose.
Il y a quelque chose, oui. Voilà, c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est que ça fait trop de hasard hein, à la fois.
Pour justement, finalement, tenter d'attraper l'arc-en-ciel, si on peut dire. Comprendre le mysticisme
voilà.
qu'on ne pourra jamais comprendre, en fait. Qu'on peut essayer de discerner, mais sans véritable... la réalité nous en empêche, quoi. Et aujourd'hui, la raison, encore plus. Parce que quelqu'un d'ultra raisonnable qui va écouter cette émission, il va se dire... il va pas forcément comprendre ou t'as... enfin non je peux pas dire ça parce que je sais pas vraiment mais la raison n'a pas de raison dans ces histoires là à mon avis
c'est très juste mais ça va peut-être permettre déclencher chez les gens un goût pour l'observation.
Oui, mais je l'espère, oui.
Et notamment, comme vous l'avez dit, des animaux familiers.
Oui, ça va toucher plus de personnes, parce qu'un animal, personne ne va dire que ça n'existe pas. Un objet volant non identifié dans le ciel, bon, on peut comprendre, vous comprenez, comme moi, que les gens qui n'ont pas été confrontés à ça, bon, c'est OK. Tu y crois pas, tu y crois pas. Mais les animaux, bon, il suffit de les écouter, enfin, pas les écouter, mais de les observer, de prêter attention à.
Voilà.
C'est pas. Mais aussi, surtout, par rapport aux animaux domestiques, plus que les lapins, je pense aux chiens, forcément, savoir les.
Ou aux chats.
Oui, ou aux chats, mais c'est encore différent, les chats. Je veux dire, c'est domestique un chat, mais pas un chat de gouttière, je pense, vous voyez. Un chien, c'est si c'est bien éduqué, si on peut employer ce mot-là, c'est fort, quoi. La relation que peut nous donner un chien, par exemple, hein, un chien de n'importe quelle race, selon ce qu'on lui donne, en fait. Ce que l'humain va lui donner, va lui apporter, il va nous le rendre. Et d'où là, on peut aussi comprendre, il y a l'expression, vous savez, c'est le chien de son maître. Le chien ressemble à son maître. Vous connaissez cette expression ou pas?
Quand je parlais au début de l'émission, là, de cette jeune femme brune, aux grands cheveux bouclés,
qui
me dit le grand amour,
ouais.
En parlant, parce qu'elle le tenait dans ses bras. Hein.
Oui. Ouais. Oui, oui, c'est ça.
Mais sans faire appel au mouvement actuel de la défense animale, etc., mais on peut dire quand même qu'il ne s'agit pas toujours de les protéger physiquement, il s'agit aussi de les apprécier intellectuellement.
Oui, voilà. Quant à leur valeur et tout, oui, c'est sûr. Ouais.
C'est une autre forme d'intelligence, mais une intelligence qui parle, qui est beaucoup plus ouverte sur le temps et l'espace. Il y a aussi Christian Jacques qui a écrit un très beau livre, Le message des constructeurs de cathédrales.
La barge russe. Quotidiennement. Avec Johnny Chief Beck. Sur Jet FM. Thank you.